Chers frères et sœurs, j'imagine que vous avez un peu de mal à vous souvenir du jour de votre naissance. En revanche, il y a des moments importants de votre vie, certainement que vous n'avez pas beaucoup de mal à les rappeler à votre mémoire, des moments, par exemple, je pense aux époux qui sont ici, le moment où vous vous êtes rencontrés, où il y a eu... Voilà. Et alors aujourd'hui, et pendant toute cette semaine, nous faisons mémoire d'un moment fondateur. Alors je ne parle pas tellement de mes 25 ans de sacerdoce, pour l'instant en tout cas, mais le moment fondateur, donc la mort et la résurrection de Jésus. Et la Pentecôte, où naît l'Église, on pourrait dire. La première lecture, je pense que vous repérez tous, c'est donc le discours que Saint-Pierre fait le jour de la Pentecôte. C'est à ce moment-là que tout bascule dans la vie de Saint-Pierre. Bien sûr, sa première rencontre avec Jésus sur le bord du lac était marquante, était importante. Mais ce qui se passe le matin de la Pentecôte, c'est encore beaucoup, beaucoup plus important. Maintenant, Pierre sait avec certitude que le Christ est ressuscité. Et alors, ça lui ouvre un horizon inimaginable. Alors ce matin, je voudrais évoquer trois points. D'abord, justement ce moment et cette annonce finalement que fait Saint-Pierre le matin de la Pentecôte, de Jésus mort et ressuscité. Et puis, relire peut-être justement là, dans une deuxième partie, brève, je vous rassure, le sacerdoce à la lumière de cette première annonce de Jésus mort et ressuscité. Et puis, enfin, je voudrais dire quelques mots sur votre place à vous, qui est importante. Alors, d'abord, sur le kérigme, hein, c'est un mot, hein, je ne sais pas si vous êtes très familier de ce mot, hein, ça vient d'un mot grec. Est-ce que vous savez quelle est la partie de l'Évangile la plus ancienne? Alors, si je vous... dit des choses qui vous paraissent élémentaires, vous me pardonnerez, mais qu'est-ce qui est le... comment les apôtres ont rédigé l'Évangile? Ils se sont dit un beau jour, ah, on va rédiger une biographie de Jésus, donc on va commencer par sa naissance, hein, on va suivre l'ordre chronologique. Est-ce que c'est comme ça, à votre avis? Non, bien entendu. C'est par le... Nous avons le cœur de l'Évangile, le noyau de l'Évangile, Nous le trouvons dans la première lecture de ce matin. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est ça le cœur du cœur de l'Évangile, c'est ça. Alors après, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait jamais écrit le début de l'Évangile. Il n'aurait jamais écrit l'Évangile, il serait retourné à la pêche. On voit déjà Saint-Pierre après le temps qu'il réalise que Jésus est vraiment ressuscité. Bon, on le voit un peu désœuvré, vous voulez venir à la pêche? Bon, allez, on vient avec toi, mais voilà, on ne les sent pas très motivés, on ne les sent pas... Ce n'est pas du tout le même état d'esprit que Saint-Pierre dans la lecture d'aujourd'hui, où on le sent plein de feu et d'ardeur pour annoncer la résurrection. Donc, le cœur de l'Évangile, c'est Jésus mort et ressuscité. Et à partir de là, le reste devient intéressant, si vous me permettez. Et alors, il y a trois éléments, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais qui ont contribué à forger en Saint-Pierre cette conviction en la résurrection du Seigneur. D'abord, le tombeau vide, c'est au moins un premier pas. Après, les apparitions, alors là, ça devient un peu plus fort pour Saint-Pierre. Et puis enfin aussi, la relecture aussi de ces événements à la lumière des Écritures. Et alors, la résurrection, ce qui est important, c'est que ce n'est pas d'abord une idée, c'est d'abord quelque chose qui s'est imposé à eux comme un fait. Ils ne l'avaient pas imaginé, ils se demandaient bien qu'est-ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts, parce que la résurrection de Jésus, ça n'a rien à voir avec celle de Lazare. Ce n'est pas un retour en arrière et puis on a quelques années de vie sur terre en plus, ça n'a rien à voir. C'est un bond en avant vers une autre manière d'être homme. cette entrée dans la vie éternelle, aussi avec son humanité. Alors, la première chose, donc, ce matin, que je voulais vous rappeler brièvement, trop brièvement, c'est ce kérigme, cette première annonce fondamentale. Et j'aurais aimé que ça produise en vous un peu comme ce qui s'est produit pour saint Thomas. Vous vous rappelez, le huitième jour, il était un peu incrédule. Il veut mettre le doigt dans les plaies. Et là, il y a une décharge. Et j'aimerais que vous ayez cette même décharge, en quelque sorte, justement, de ce contact avec le Seigneur ressuscité. Alors, il y a 25 ans, c'est donc dans ce contexte de la résurrection de Jésus que j'ai été ordonné prêtre. Et je trouve que cette coïncidence, une belle coïncidence voulue par la Providence, aussi pour m'aider, nous aider à réaliser que quelque chose de la vocation du prêtre. À quoi sert un prêtre ? Un prêtre, ça sert avant tout à nous mettre en contact avec la mort et la résurrection de Jésus. Un prêtre, c'est pas le président d'une association de chrétiens, ou je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Le prêtre, c'est celui qui nous met en contact, qui essaye, enfin, ou en tout cas par son ministère, par la grâce qu'il a reçue, nous met en contact avec la mort et la résurrection de Jésus. Hors de ça, bon, le prêtre, il n'a pas grand intérêt. Alors, il le fait de différentes manières, de nous mettre en contact avec la mort et la résurrection de Jésus. Je ne vais pas trop m'étendre non plus, mais en célébrant l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie ? C'est la messe, c'est rendre la croix de Jésus présente, le don de Jésus, le don Jésus qui donne sa vie pour nous, rendre ce don présent parce qu'il est venu pour nous sauver. Le prêtre aussi, c'est celui qui nous donne les fruits de la résurrection de Jésus, et un fruit essentiel de la résurrection de Jésus, c'est le pardon. Vous savez, le soir de Pâques, qu'est-ce que Jésus confie à ses apôtres ? Ceux, il souffle sur l'Esprit Saint, il leur donne le don de la paix, il leur dit « Ceux à qui vous leur remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. » Alors ça, c'est aussi la grâce du prêtre, qu'il dépasse, bien entendu, ce n'est pas en son nom propre qu'il le fait, mais au nom du Seigneur. Alors le curé d'Ars, pour exprimer ce ministère du prêtre, a des paroles très belles. Il nous dit « Sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur ne serviraient de rien. » Ou encore, « À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte ?» Le prêtre a la clé des trésors célestes, c'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les prêtres vont s'enorgueillir, parce qu'ils savent bien que ce trésor qui leur est confié, il est dans un vase d'argile. Comme le dit saint Paul, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu, elle ne vient pas de nous. Alors ça vous est peut-être arrivé, je ne sais pas, d'arriver devant une maison, pas de chance, vous avez oublié le code. On se sent un petit peu bête, on n'est pas loin, mais on ne peut pas rentrer dedans. Quelque part avec le prêtre, donc un peu comme le dit le curé d'Ars, c'est le portier, mais s'il n'y a pas de portier, on est tout bête. Et alors c'est pour ça qu'on a besoin de prêtre, c'est parce que c'est lui aussi qui nous ouvre en quelque sorte la maison du bon Dieu. Alors le bon Dieu, il pourrait se débrouiller autrement, mais il a voulu les prêtres aussi pour ça. Et un dernier mot donc sur vous, sur les laïcs. Vous sentez bien que ce que j'essaie de dire, ce n'est pas pour mettre le prêtre sur un piédestal, parce que justement le portier, ce n'est pas forcément le personnage le plus illustre de la maison, donc voilà, c'est la place du prêtre. Dans notre société, on a beaucoup de mal à accepter la différence. Alors, l'actualité est la différence entre l'homme et la femme, mais ici aussi la différence entre le prêtre et le laïc. Oh, c'est important cette différence. Alors c'est vrai qu'avec le péché qui est dans le cœur de l'homme, la différence se transforme quelquefois en domination, en rapport de domination, mais ça ne doit pas nous faire renoncer à la différence. Dans un corps, heureusement, qu'il n'y a pas que des yeux ou que des bras, mais qu'il y a une tête, qu'il y a voilà, des oreilles, des pieds aussi, ça sert quand même. Et alors, le prêtre a une place importante dans le corps de l'Église, mais il n'y a pas que le prêtre dans l'Église. Et le prêtre, s'il est appelé à servir avec générosité ses frères laïcs, il est appelé aussi à recevoir de... Alors pour ça, l'évangile qui nous est donné aujourd'hui me paraît assez évocateur. À qui Jésus apparaît en premier après sa résurrection ? Est-ce que c'est à Pierre ? Alors bien sûr, c'est à Pierre d'annoncer la résurrection. C'est lui qui prend la parole en public. Mais ce n'est pas à lui que Jésus apparaît en premier, c'est aux femmes. Et alors Pierre, il revient à Pierre d'abord de recevoir ce témoignage, et après d'avoir une apparition en direct aussi, mais d'abord de recevoir ce témoignage. Et alors les laïcs ne sont pas les simples destinataires du soin pastoral des prêtres, mais aussi vraiment des collaborateurs. Et dans mon ministère, j'ai beaucoup reçu de multiples manières aussi des laïcs avec qui j'ai pu œuvrer. Alors, en conclusion de cette homilie, donc je me permets de vous faire cette recommandation. Si vous voulez nous soutenir dans notre vie de prêtre, alors soyez d'abord bien à l'écoute de Dieu, à l'intime de votre cœur, de votre âme, et des appels que Dieu peut vous adresser. Et puis, comme on aime le faire dans la communauté, je ne peux pas ne pas donner le mot de la fin à la Vierge Marie, parce que j'ai bien conscience que je lui dois beaucoup. Elle m'a protégé à de multiples reprises dans ma vie de prêtre. Et alors, je désirais lui confier les futures années de mon sacerdoce. Alors, n'hésitez pas non plus à la prier pour moi. Amen.